Et ben voilà, à las barricadas, toujours donc le générique de Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, à tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous, c'est Idées Noires. Donc, comme tous les mercredis, de 20h à 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On va passer tout de suite à une annonce importante, donc, pour ce samedi.
Ouais, du coup, je me suis trompé, j'en ai une autre, en fait.
Ah, d'accord.
Bon, on a préparé l'émission. Non, j'en ai une autre qui pendant quelques semaines, donc, n'est pas sur Lyon non plus, mais je voulais, du coup, en faire un peu la communication. C'est organisé, du coup, c'est sur Paris que ça se passe, sur la région parisienne, et c'est organisé par les camarades du FRAP, du Front antipatriarcal de la CGA région parisienne, donc qui réunit des anarcha-féministes de la CGA et des sympathisantes. Et du coup, c'est le retour, c'est la reprise un petit peu des stages d'autodéfense féministe dans la rue et en manif, en non-mixité. Ça se passera le 17 décembre, voilà, sur la région parisienne. Il faut envoyer un mail à frontlutteantipatriarcal@gmail.com. Et voilà, c'était juste pour vous dire, voilà, si vous êtes sur Paris à ce moment-là ou si vous avez des gens que vous connaissez sur Paris, des amis que vous connaissez sur Paris, n'hésitez pas à leur conseiller ce genre de stage. Et donc on en vient du coup à la grosse annonce de cette émission. Voilà, c'est pour ce samedi 2 décembre à 15h place des Terreaux, il va y avoir une manifestation en solidarité avec toutes les migrants et tous les migrants. Voilà, on va refaire un petit point sur la situation lyonnaise. Voilà, vous êtes au courant qui est un campement qui est là depuis plusieurs mois maintenant, au niveau de l'esplanade Nelson Mandela, à côté de la Pardieu, au niveau des archives municipales, avec environ un peu plus de 200 personnes, je pense, maintenant, qui sont installées avec des tentes, voilà, qui avaient été virées de plusieurs autres coins avant, et qui, là, sont là pour le moment, voilà, qui occupent l'espace comme elles le peuvent. Voilà, ce qu'il faut savoir sur ce groupe de personnes, c'est qu'il y a un avis d'expulsion qui est arrivé sur la table du préfet, qu'il l'a sûrement signé, et que, du coup, l'expulsion peut venir à tout moment, mais qu'il y ait expulsion ou pas, leur situation est, vu la météo qui commence vraiment à s'aggraver, les températures qui commencent à être négatives, voilà, il est hors de question que ces personnes restent à la rue, donc il va falloir trouver une solution pour eux et elles. Vous êtes aussi au courant de ce qui se passe au niveau de l'amphi C de la fac Lyon 2 à Bron, avec l'occupation de cet amphi, voilà, en solidarité, donc, et avec ce qu'on les a appelés les expulsés de la Pardieu. Donc c'était des jeunes mineurs majeurs qui occupaient une partie de l'extérieur de la Pardieu et qui dormaient tous les soirs. Les flics les ont virés et ont fermé l'accès. Et depuis, ils étaient à la rue. Il y a une tentative d'ouverture de squat qui a échoué. Et du coup, depuis, ils sont dans cet amphi-là, à la Pardieu, voilà, en attendant une autre solution, un hébergement et une prise en charge. Et il y a aussi le collectif dont vous avez sûrement entendu parler, le collectif Jamais Sans Toi, qui lui, du coup, c'est un collectif qui regroupe plusieurs collectifs qu'il y a dans plusieurs écoles et qui s'occupe de mettre à l'abri des enfants scolarisés et leurs familles qui sont sans toit. Donc voilà, on le répétera assez dans les minutes qui vont venir, mais du coup un toit c'est un droit, et donc du coup pour toutes ces personnes-là et pour toutes les autres, parce qu'il y a environ a priori plusieurs milliers de personnes à la rue dans l'agglomération lyonnaise, le 115 il est submergé comme tout le temps, ça veut dire que quand on appelle on n'a jamais une place sauf si on est prioritaire, mais les priorités sont de plus en plus limitées, et que pour l'instant il n'y a pas d'ouverture d'autres lieux. Le préfet a annoncé pour le plan grand froid qu'elle allait avoir des ouvertures de gymnase, mais ça c'est uniquement quand les températures seront négatives en journée et en soirée, mais autrement pour les autres moments, il n'y a pas d'hébergement pour tout ce monde-là. Et on connaît aussi la tactique de la préfecture, notamment pour les migrantes et les migrants, à savoir que si elle ouvre des lieux, on sait qu'il y aura des contrôles de papier à ce moment-là, et on sait que la volonté très claire de la préfecture, du gouvernement et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, c'est de faire le tri justement et d'expulser tous ceux qui ne leur plaisent pas. Et grosso modo, pour le gouvernement, ça fait quand même beaucoup de monde, c'est-à-dire tous les migrants qui sont venus là pour des raisons économiques, tous ceux qui dépendent de l'accord Dublin, donc on appelle les Dublinais, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur périple pour arriver en Europe, sont passés par un autre pays avant la France et ont été arrêtés, dont les empreintes ont été prises avant, c'est de les renvoyer dans ces pays-là, tout sachant que dans ces pays-là, la situation est pire des fois, qu'ils seront sûrement renvoyés ailleurs. Et voilà, vous êtes sûrement aussi au courant de ce qui se passe en Libye, en tout cas, il n'y a pas qu'en Libye a priori, mais enfin en Libye, il y a eu des images de journalistes américains qui ont permis de se rendre compte à tout le monde, même si on le savait depuis un moment, qu'il y avait une traite des migrants là-bas en Libye, c'est-à-dire des ventes d'esclaves, comme à la mauvaise époque. Il y a très longtemps, où les gens sont vendus pour quelques euros, quelques centaines d'euros, soit comme esclaves pour travailler, soit comme esclaves sexuels, notamment pour les femmes. Il y a eu notamment une manifestation la semaine dernière, samedi dernier, place des Terreaux, qui est partie des Bellecours, qui est allée au Terreau, et qu'ensuite qui est partie vers Garibaldi, voilà, pour dire stop à l'esclavage moderne entre guillemets. Donc on espère que tout ce monde-là va se regrouper ce samedi. En tout cas, c'est le but de la manifestation, c'est d'essayer de regrouper tous les collectifs qui sont très actifs en ce moment. Et de se réunir sur une manifestation pour mettre un coup de pression, pour montrer le rapport de force qui existe, on l'espère, sur Lyon, en faveur de toutes ces personnes à la rue et de toutes les responsabilités de l'État français, en tout cas sur ces migrations. Donc la manif, elle est appelée par un collectif qui s'appelle Collectif de soutien aux réfugiés et migrants-migrantes Lyon 69, dont fait partie la CGA Lyon. Il y a aussi Alternative Libertaire, notamment pour les groupes communistes libertaires. Je vais vous lire l'appel à la manif. Migrants-migrantes sans papier, sans toit, jeunes sans école, une situation humanitaire scandaleuse face à une politique inacceptable. Lyon, début novembre, au moins 80 mineurs isolés, dont des collégiens et lycéens, dorment à la rue, avec ou sans papier. Plus de 300 enfants dans l'agglomération n'ont pas de toit pour vivre, dont certains élèves, donc des écoles qui sont mobilisées, on pense à l'école Michel Servet, à l'école Douaneau, à l'école Aubrac, à l'école Jean-Zay, mais il y a aussi beaucoup d'écoles à Vaux-en-Velin.
Victor Hugo,
voilà, des écoles
dans le premier arrondissement.
Voilà, qui sont occupées en ce moment, pour permettre aux enfants et à leurs familles de pouvoir dormir au chaud. Voilà. Et ensuite, les parents partent la journée, les enfants sont scolarisés de manière normale. Mais voilà, c'est une solution transitoire. Il va falloir vraiment que ça se bouge pour qu'il y ait une autre solution qui soit trouvée. Des jeunes migrants, migrantes scolarisés qui préparent le bac reçoivent un avis d'expulsion, sont convoqués au tribunal. Dans le Rhône, des demandeurs d'asile doivent attendre 2 mois, malgré le fait que la demande d'asile ait été acceptée, en tout cas le traitement de la demande, 2 mois sans hébergement avant d'être accueillis. On peut comme ça multiplier les exemples à Lyon et dans toute la France. C'est pourquoi dans un texte adopté le 17 octobre, la CNCDH, qui est la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, instance nationale de promotion et de protection des droits, entre guillemets, donc s'alarme de la multiplication des violations des droits fondamentaux des personnes migrantes observées sur le terrain. Et donc en plus de ça, se rajoute, la situation est déjà assez critique pour les migrantes et les migrants, va se rajouter bientôt un nouveau projet de loi mené par Colomb et par Macron. Donc il prépare son nouveau projet de loi visant donc à rendre plus facile, plus rapide et plus nombreuses les expulsions. Les premières informations qui circulent sur ce projet montrent qu'il s'agit une fois encore d'un projet liberticide et xénophobe, avec une durée de rétention par exemple portée à 90 jours au lieu de 45, pour pouvoir mieux expulser après, traitant les migrants sans papier qui fuient la guerre et la misère comme des criminels. Remettant en cause le droit d'asile, ce texte permettrait ainsi d'expulser des demandeurs d'asile vers des pays qu'ils ont traversés durant leur fuite. On retourne aux accords Dublin par exemple. C'est pourquoi la CNCDH considère que ce qui est déjà connu de ce texte marque entre guillemets un recul sans précédent des droits fondamentaux des personnes migrantes. On était très critiques sur ce qui s'était passé sous Sarkozy, sous Hollande pour les personnes migrantes, mais là ce qui arrive c'est pire. Et de plus, le gouvernement veut sortir la protection des jeunes étrangers isolés du droit commun de l'aide sociale à l'enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, l'aide sociale à l'enfance s'occupait de tous les enfants, quelles que soient leurs origines et quelle que soit leur situation administrative. Le fait qu'ils soient mineurs, faisait qu'ils avaient droit à une aide, et notamment la scolarité, mais pas que. Et donc là, ils veulent diviser le truc, ils veulent externaliser un petit peu l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que pour les enfants français en difficulté, là, il y aurait toujours l'aide sociale à l'enfance, mais pour les personnes migrantes, les jeunes migrants, il y aurait du coup une société ou une association qui achèterait du coup le droit de traiter ces demandes-là. Et on sait comment ça va être traité, ça va être le tri et sûrement énormément d'expulsions. Et donc pour entraver toute mobilisation contre son projet de loi, le gouvernement cherche à associer nombre d'organisations de défense de migrants et sans-papiers, étant entendu que sur le fond, tout est déjà décidé pour ce projet qui doit être présenté d'ici la fin de l'année au Conseil des ministres. Cette politique doit cesser, l'avant-projet de loi Macron sur l'immigration ne doit pas avoir le jour, le budget utilisé pour la chasse aux migrants et migrantes doit être affecté à leur accueil. Donc voilà pour ce tract d'appel à la manifestation. On sait, Macron avait dit notamment qu'il y aurait plus personne à la rue, qu'il mette tout le monde à l'abri, tout le monde à la rue. Il y a une seule raison à ça, c'est pas pour des raisons humanitaires, c'est vraiment pour des raisons aussi de chiffres, c'est-à-dire qu'en mettant tout le monde à l'abri, effectivement, bah, il va pouvoir faire le tri tranquillement, comme on le disait tout à l'heure, et expulser bah, tous ceux qui viennent soi-disant d'un pays sûr ou tous ceux qui sont arrivés dans un autre pays européen avant de fouler la France. On voulait aussi revenir sur ce qui se passe du coup à l'amphi C, à la fac Lyon 2 à Bron, du coup avec donc du coup qui sont pas plus haut, qui est occupé, voilà, pour pouvoir loger une cinquantaine de migrants et de migrantes. Il y a eu une réunion du coup mardi soir, il y a eu une espèce d'AG, donc voilà, avec un communiqué qui est sorti dont le titre est des papiers et des logements pour tous et toutes, avec des exigences de cette réunion là donc la réquisition des logements vides, on y reviendra aussi, mais c'est voilà, c'est la clé. Pourtant on sait qu'il y a des milliers de logements vides à Lyon, qu'ils soient privés ou publics, et que l'occupation de ces lieux permettrait de mettre tout le monde à la rue. C'est-à-dire quand on dit tout le monde, là on parlait des migrants et des migrantes pour la manif, mais ce serait vraiment toutes les personnes qui sont à la rue, qui sont en mal logement. Ça permettrait de loger tout le monde, mais bien sûr ça, vous pensez bien que les politiques n'en veulent pas. Ce serait dire qu'ils sont responsables de quelque chose aussi, et surtout ce qui mettrait la pression aussi sur tout ce qui est loyer, parce qu'une fois que tous les logements sont occupés, il n'y a plus de chantage au loyer, et donc ce qui ferait diminuer drastiquement les loyers pour tous et toutes. Deuxième exigence, le logement immédiat de toutes les personnes sans toit. Et la troisième, la régularisation inconditionnelle des personnes sans papier. Donc voilà pour l'appel. Il y a deux actions du coup qui sont appelées. Une action en soutien aux exilés de la Part-Dieu, ce sera demain à 14h30 devant l'hôtel Athéna. Il me semble que c'est Vervez, mais je ne suis pas certain. Et donc la manifestation en soutien aux migrants et migrantes le samedi 2, donc celle dont tu as parlé tout à l'heure. Et aussi une AG suivante du coup à l'amphi D du campus de Bron, qui sera le mardi 5 décembre. Donc à cette AG là c'est pas mal, parce qu'il a été regroupé pas mal de monde quand même. Donc l'amphi C solidaire, Agir Migrants Lyon, Coordination Urgence Migrants, Collectif des étudiantes et étudiants et étrangers de Lyon sans papier solidaire, le collectif Réfugiés 69, l'intersquat, oula ma voix est partie, Jamais Sans Toi, de MSG qui est donc Migration, Minorité Sexuelle et de Genre, Partage, Terre d'Ancrage, RESF, UPC, donc voilà, donc pas mal de monde quand même, et on espère du coup que le lien entre ces collectifs-là va grandir pour qu'on ait déjà une grosse mobilisation le 2 décembre, et après pourquoi pas quelque chose d'envergure pour essayer de mettre le maximum de monde à l'abri. Et donc, dernière petite chose sur ce point-là, je vais vous lire du coup le texte qui doit être publié depuis peut-être quelques heures ou qui le sera bientôt, notamment sur Rebellion, qui est aussi sur notre site, cgalyon.ouvertom.org, qui est un appel du coup de la CGA Lyon et d'Alternative Libertaire Lyon à la formation d'un cortège... Personne n'est illégal. Voilà, aucun être humain n'est illégal. Voilà, appelle à un cortège un peu vaste, pas forcément que libertaire, mais vraiment avec ce mot d'ordre-là, aucun être humain n'est illégal. Donc, je vais vous lire le texte. Ça va revenir un petit peu déjà sur ce qu'on a dit, mais du coup, c'est pas très grave. Une situation lyonnaise inacceptable devant l'inaction des pouvoirs publics à gérer la situation et devant la volonté affichée de vouloir trier les migrantes et migrants. Il est urgent d'afficher dans la rue notre volonté commune d'agir en solidarité avec eux et elles. De nombreux collectifs, associations, individus agissent tous les jours en solidarité pour essayer de trouver des solutions aux personnes vivant à la rue, aux impasses administratives que ces personnes rencontrent et aux violences et racismes étatiques quotidiens qu'elles subissent. La mobilisation importante au niveau de l'Esplanade Mandela, des écoles aussi où parents, habitants, habitantes et professionnels se mobilisent pour que les enfants scolarisés et leurs familles aient un toit, des étudiantes et étudiants de Lyon 2 solidaires avec les expulsés de la Part-Dieu, des collectifs, associations toujours présentes pour la lutte des migrantes et migrants laissent entrevoir un espoir de renversement du rapport de force face aux autorités. Et ce notamment depuis mercredi dernier, le mercredi 22 novembre, où sur un appel du collectif Jamais Sans Toi, les différents collectifs se sont retrouvés. Ensuite, il y a un petit point sur les migrantes qui sont spécifiquement ciblées par des violences durant leur trajet et aussi en arrivant en France et en Europe. Donc les migrantes subissent de fait de leur genre des violences ciblées durant leur parcours. De nombreux récits relatent des violences allant du harcèlement sexuel au viol et ou au mariage forcé, qui sont le fait de passeurs, de représentants de forces de l'ordre d'autres migrants. Mais les violences ne s'arrêtent pas au voyage et dans le pays dit d'accueil, les violences continuent et la prise en charge physique pour les soins, pour les grossesses du viol, etc., et psychologique pour la prise en charge par des professionnels, est pratiquement inexistante. Donc là aussi, on parle de solidarité par rapport à, spécifiquement aux migrantes. Ailleurs, la situation est similaire et donc les projets gouvernementaux ne laissent rien présager de bon. Que ce soit sur la capitale, dans d'autres villes ou à la frontière franco-italienne, les situations d'urgence se multiplient, notamment avec la détérioration de la météo qui rend le périple des migrants et migrantes à la frontière de plus en plus dangereux. Les 4 personnes lourdement blessées après quelques jours de traversée dans la montagne se multiplient et les les autorités laissent faire, accompagnant même les migrants et migrantes au point de départ, c'est-à-dire à la frontière franco-italienne. Dans ce contexte tragique, le futur projet de loi Macron-Collomb ne fera qu'aggraver la situation des migrants et migrantes. En effet, plusieurs pistes vont certainement être suivies, prendre en compte le trajet parcouru et non plus les besoins de la personne et ses craintes à retourner à son point de départ. En gros, ne plus étudier de dossier du moment que le ou la migrant-migrante vient d'un pays dit sûr. Restriction de la durée de traitement des dossiers, multiplication des expulsions, rétention administrative augmentée, donc emprisonnement des migrants et migrantes avant leur expulsion, accentuation des expulsions des migrants et migrantes dites dépendants de Dublin. Et donc ce qu'on propose, donc lutter par solidarité et pour une autre vision de la société, parce qu'il ne faut pas s'arrêter non plus qu'à la solidarité, elle est très importante en ce moment, et du coup il faut aussi avancer sur un autre projet pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui souhaitent venir. La solidarité avec les migrantes et migrantes et les luttes collectives existent bien aujourd'hui et sont plus que nécessaires à renforcer pour inverser le rapport de force. Accompagner les migrantes et migrants, faire pression sur les préfectures, être présente au tribunal, déposer les recours, se rassembler à l'aéroport pour éviter un renvoi, refuser d'embarquer dans un vol qui sert à expulser quelqu'un et quelqu'une, sont des actions à mener pour ne pas lâcher la lutte sur le terrain. C'est en menant collectivement ces mobilisations que nous aurons le plus de poids. Nous refusons leur logique de catégorisation des bons et bonnes migrantes-migrantes de celles et ceux à renvoyer. Les politiques migratoires sont un rouage du système capitaliste et de toutes les logiques de pouvoir et de profit qui engendrent inégalités sociales, guerre, misère et exploitation à travers le monde. Les unes et les uns les autres ne subissons pas leurs conséquences avec le même degré de violence, mais pour lutter contre la précarité, le chômage, la misère, nous devons être tous et toutes solidaires face aux dirigeants et exploiteurs ici comme ailleurs. Aucun être humain n'est illégal. Libre circulation et installation de tous et toutes. Solidarité et lutte collective face au capitalisme et aux États. Donc voilà, on vous rappelle le rendez-vous de samedi 2 décembre à 15h à la place de Théo. Il faut vraiment qu'il y ait du monde. Il va faire froid, voilà, il fait froid en ce moment. Mais il faut penser à toutes ces personnes qui sont à la rue toute la journée et toutes les nuits. Il faut se bouger, voilà, ça va durer 2 heures. Il faut vraiment qu'il y ait énormément de monde pour que le rapport de force s'inverse et que les pressions puissent être mises sur les autorités publiques pour des ouvertures concrètes. Voilà, et je vous lirai tout à l'heure en fin d'émission sûrement un appel à manifester qui sera le samedi 16 décembre à Menton, à la frontière franco-italienne, qui est un appel national, voilà, pour dénoncer aussi ce qui se passe, voilà, au niveau de la frontière franco-italienne notamment. Donc voilà.
Très bien. De petite musique là-dessus.
Ouais, ça marche.
Bon, écoutez, ce soir, on va écouter Juliette Gréco qui va nous interpréter un texte de Étienne Rodagil, donc un camarade, hein, plutôt sur la CNT, donc voilà, libertaire. Bonne écoute. À tout de suite.
À tout de suite.
Dépression, petit barbare, hôtel de luxe décoré comme une gare, contagieux, petit barbare, des amours maquillés en étage, religion, petit barbare, le bon Dieu est peut-être chef de gare, illusion, petit barbare, même plus l'espérance du grand soir. Dépression, petit barbare, il peut pleuvoir dans le cœur des guitares, au travail, petit barbare, où on fera de toi un steak tartare, inflation, petit barbare, on calcule ton bonheur en chômage, en attendant, petit barbare, en lisant n'importe quoi. En attendant, petit barbare, tu l'aimes, tu l'aimes. Tu te fous bien, petit barbare, des dépressions, des illusions, des religions, de l'inflation, petit barbare, tu l'aimes, tu l'aimes. Petit barbare. Petit barbare, dépression, petit barbare, contagion, petit barbare, religion, petit barbare,
Rebonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et nous allons passer, après cette pause musicale, à un premier jet de lutte sociale.
En effet, une première page. Donc, je vais parler un petit peu des pompiers. Donc, c'est la Vienne. Donc, le département de la Vienne, c'est les sapeurs-pompiers donc, qui sont en grève depuis le 16 novembre. Avec des débrayages chaque jour et qui dénoncent leurs conditions de travail à flux tendu et qui exigent le maintien de 13 contrats aidés. Alors, un pompier s'arrête, c'est une grève, 59 minutes sur les 11 qui sont en service. Alors, c'est un peu, je dirais, tarabiscoté, mais ça ennuie profondément la hiérarchie, selon la CGT. Le service, quand même, de secours dans ces conditions-là est toujours assuré. Rassurons-nous. Idem dans le Val d'Oise, ils se sont donc donné le mot, les pompiers en ce moment. C'est ici la CGT du SDIS 95, donc dans le Val d'Oise, pour un manque d'effectifs sur plusieurs casernes, exige un service public de qualité et dénonce la dégradation des conditions de travail et également une augmentation des contraintes émotionnelles. On poursuit avec le Nord cette fois, le département du Nord, me direz-vous, oui, c'est ici aussi, bien sûr, puisque c'est un mouvement qui s'est installé depuis plusieurs semaines, avec une assemblée générale le 13 novembre, et qui a décidé d'une grève illimitée. Donc l'effectif, toujours pareil, évidemment, les conditions de travail, 250 personnes qui sont manquantes à l'appel dans ce département du Nord, selon les syndicats, et il y a également ici, ils ont rajouté un petit truc, c'est le déroulement des carrières. Voilà. Alors, les facteurs, me direz-vous aussi, les facteurs sont toujours en grève. C'est par exemple le cas en Ille-et-Vilaine avec la CGT, FO et la CFDT qui dénoncent ici, les facteurs et factrices, donc une réorganisation à marche forcée au détriment du service public. La direction répond, je cite, évolution du quotidien du préposé visant à lui permettre de réaliser de nouvelles activités, gage d'une pérennisation de son métier. C'est pas beau ça,
c'est beau, ouais. ça justifie tout, c'est merveilleux.
Noté, mot à mot, il n'y a pas de problème, c'est bien ce qui a été dit. Alors les métiers évidemment autres que celui de facteur de factrice, on le sait, c'est de livrer du pain, donner des cours, je sais pas, il y a tout un tas de trucs qui a été mis en œuvre. C'est affolant. Bon, la réponse, ça a été une grève illimitée. Le département des Côtes-d'Armor a suivi également 270 suppressions d'emplois depuis l'année 2013. Alors, leur revendication, c'est le maintien des CDI pour les précaires, donc les contrats, CDI pour les précaires, un maintien des emplois actuels sur site, le maintien de l'indemnité de collation. Je note aussi, là, je cite, apparemment on veut leur piquer la bouffe, prise en compte de la charge réelle de travail et le report de la réorganisation, la cinglingling, c'est ce qu'ils souhaitent quand même, les facteurs et factrices. Bon, passons à autre chose maintenant, c'est dans la santé cette fois aussi, autre branche où il y a pas mal de soucis, donc c'est à Rouen par exemple, avec une grève le 20 novembre chez le SAMU, dans le SAMU et le SMUR, donc 6 postes de conducteurs vont gicler. Alors 24 heures, c'est le temps de grève imparti tous les jeudis au CHU de la ville de Rouen, du service mobile de réanimation et urgence, donc le SMUR, 80 postes de travail divers d'ici fin 2017, dont vont partir en fumée également. Programmation, c'est de la direction, de 24 heures, les arrêts de travail pour grève sont passés à 48 heures. Cette directive de la direction a un coût, évidemment, puisque c'est 22 millions d'euros pour... investissement immobilier pour se restructurer en un nouvel hôpital. Donc, c'est les employés qui doivent payer, évidemment, cette restructuration immobilière de l'hôpital. à Châteaubriant, c'est dans Loire-Atlantique, c'est la clinique Sainte-Marie, c'était le 23 novembre, avec une grève dès 6h45 du matin, et manif devant le pôle santé, profitant de l'inauguration de l'IRM par les pontes de l'ARS. EFO était aux commandes à ce moment-là. Le but, c'est d'obtenir des augmentations de salariales manquantes depuis 5 ans dans cet hôpital. En Île-de-France maintenant, c'est le 22 novembre dans le département 80, enfin dans les départements 92, 95, 93, ainsi que dans l'arrondissement du 19e de Paris, avec une grève des agents du nettoyage de l'entreprise Samzik Propreté, ici avec la CGT. Qui était, je dirais, sans plaisanterie, grâce aux manches à balai, c'est pour la conduite, évidemment, de cette grève. Samzik à la charge, donc, c'est un contrat de sous-traitance, évidemment, de l'entretien des trottoirs, des poubelles publiques. Les agents ont décidé une grève illimitée. Alors pourquoi ? C'est un désaccord sur les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Il est réclamé, exigé, une hausse de 5%. Pour les salaires. À Clichy-sur-Seine, là, ici, c'est une suite. Alors, ils sont en grève, ils et elles sont en grève depuis un mois. Ce sont les femmes de chambre de l'hôtel Holiday Inn. Les syndicats CGT Hôtel de Prestige et la CNTSO aussi également qui étaient associés dans cette lutte. Ce sont les gouvernantes et les employés à la plonge. Décidément. Alors, il y a plusieurs problèmes évidemment qui se sont posés ici avec le travail dissimulé. C'est pas nouveau, évidemment. Les femmes de chambre ont été verbalisées aussi par la police à hauteur de 8 PV, 8 procès-verbaux à 68 euros le bout pour trouble à l'ordre public. Elle tapait tout simplement sur des ustensiles de cuisine devant, leur outil de travail. Ah ouais. Voilà, devant l'hôtel. En fait, elles sont les employées de Emera, qui est également ici un sous-traitant. Alors, les revendications sont des paiements des heures supplémentaires, sur la durée du travail, des embauches directes par l'hôtel pour faire face à un apport de travail supplémentaire et non plus être engagé au coup par coup. À Rennes, maintenant, c'était depuis le 7 novembre avec une grève de Sud Santé à l'hôpital psychiatrique Guillaume Régnier. Alors, c'est plutôt sur le mode débrayage d'une heure, voire deux heures. La CGT, la CFDT se sont rejoints sur cette lutte. Alors, pour dénoncer le sous-effectif, dénoncer également des lits supprimés sur certains services, le personnel soignant maltraité par la direction, évidemment, et puis cette direction qui est accusée aussi de mutisme et de l'ARS sur les revendications, mais affirme sa volonté, enfin l'ARS et la direction de l'hôpital affirment leur volonté d'améliorer l'ordinaire malgré un budget contraint. À Paris, c'était une grève des salariés de Cyclocity. Cyclocity en grève à Paris. C'est une filiale de Jean-Claude Decaux Vélib. Et ces travailleurs ont même manifesté à Paris et à Puteaux, 70 personnes. Ils ont même occupé deux établissements, Smove & Go et Indigo, qui sont les actionnaires du groupement Smove & Go, c'est dur à dire, cette société a repris le contrat des Vélib. Vous avez dû apprendre ça dans la presse, dans les nouvelles habituelles, donc à Jean-Claude Decaux, qui s'est fait virer là-dessus.
Il s'est viré son contrat, il ne doit pas être content.
Voilà, donc les salariés, eux et elles, exigent que leur... Oui, c'est vrai que ça ne leur arrange pas non plus leur situation, donc c'est pour ça cette grève, parce qu'ils exigent que leur contrat soit aussi repris aux mêmes conditions. Il y a quand même 315 salariés, alors que chez Smove & Go, ils sont que deux.
Pour le moment.
Ils tournent avec que deux salariés.
Pour le moment,
c'est des sociétés qui tournent avec très peu de monde. Et c'est une société à action simplifiée, c'est-à-dire une SAS. Ouais. Donc, une lutte importante, hein, ce 17 novembre, car malgré certaines promesses, bah, il n'y avait rien de vraiment conclu à cette date, rien n'était réglé. Et pour faire aboutir à une fin heureuse, les grévistes éteignent des stations Vélib, carrément, donc personne ne peut se servir de vélo. C'est une bonne manière. Leur truc, c'est de toucher au portefeuille la formule
directement, hein.
Mise en application. Il y a quand même 300 000 abonnés. Hein,
ça fait du monde.
Oui, ça fait du monde quand même, 300 000 abonnés. Et Smov & Go, c'est une société qui a moins d'une année d'existence. Ils ont, comme je le disais, un à deux salariés, simplement, pour faire tourner la boutique. Alors, ça leur coûte pas.
C'était avant d'avoir le contrat, voilà.
Oui, bien sûr. Ouais, c'est assez bizarre. Enfin, moi, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai jeté un coup d'œil. C'est quand même assez curieux. C'est un peu ce modèle de société qu'on trouve aujourd'hui, qui tourne avec très peu de choses, avec très peu d'employés, et puis qui se font du fric, quoi. Hein, ni plus ni moins, hein. Le secteur d'activité, c'est la location de courte durée, voiture, vélo, tout marche avec l'informatique. Ah ouais. Donc voiture, vélo, etc. Donc le président est une autre société, Mobivia, une société à multiples facettes. Et Indigo, c'est destiné plutôt au stationnement, à la mise en place de parking partout, dans les hôtels, universités, gares, centres commerciaux.
D'accord.
Voilà, c'est trouver du moyen à faire du fric sans trop de frais, quoi. Enfin, les startups, je crois que ça doit fonctionner ce style-là.
On verra ce que ça donne sur Paris. On va surveiller notamment du coup de sort de tous les salariés. Du coup, ce qu'ils vont devenir.
Voilà pour cette première page donc de lutte.
Je savais plus si j'enchaîne derrière, c'est ça, hein, normalement.
C'est comme tu le veux, c'est comme tu le sens.
Je vais enchaîner.
On va passer une petite musique.
Je vais faire ce point-là, puis après,
D'accord.
du coup, on fera la petite pause musicale. On voulait revenir un peu sur ce qui s'était passé sur Paris, et notamment ce qui était arrivé au syndicat Sud-Éducation 93, donc Seine-Saint-Denis. On avait parlé la semaine dernière, on avait lu le communiqué du coup de Sud-Éduc 93. On vous resitue un petit peu ce qui s'était passé. Donc le syndicat organisait du coup un stage syndical en direction du coup des professionnels de l'éducation, hein, c'est celui d'éducation, avec un stage du coup pour savoir, le titre je crois exact était où on est l'antiracisme dans l'école aujourd'hui, et avec 9 ateliers, et sur ces 9 ateliers-là, 2 ateliers en non-mixité pour les personnes racisées. Et là, gros scandale, un peu ce qu'on avait vu un petit peu cet été, l'été dernier, avec le festival afroféministe, également qui comptait 1 ou 2 ateliers en non-mixité. Gros scandale qui est parti, il me semble, d'un élu qui appartient au Printemps Républicain, je crois, un truc du genre, un truc un peu laïcard, même très laïcard, qui s'est empressé de dénoncer cette chose-là. C'est ce qu'on dit, appelle cette chose, c'est lui-même qui appelait comme ça, hein, cette non-mixité. S'en est suivi un déferlement sur la fachosphère, un peu comme d'habitude, notamment avec F de Souche en première ligne. On rappelle que F de Souche, est dirigé entre guillemets par l'ancien responsable des identitaires lyonnais, Damien Rieu, Damien Lefebvre. S'en est suivi après un truc plutôt hallucinant, c'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale qui reprend les revendications de l'extrême droite française, qui est intervenu à l'Assemblée nationale pour demander des sanctions contre le syndicat, de parler de sa volonté de porter plainte pour diffamation quand le syndicat parlait de racisme d'État. Enfin voilà, un ministre qui avait rien compris à l'histoire, enfin du coup qui avait très bien compris, mais du coup qui jouait le jeu de son aile droite. Et s'en est suivi donc un communiqué de Sud-Édu 93. Et je vais vous lire un petit texte donc trouvé sur le net, il y a un site qui s'appelle, je crois, soutien à Sud-Édu 93.wordpress.com, vous cherchez ça. Je vais lire ce texte parce que du coup est plutôt intéressant. Reprenant les inepties propagées par la fachosphère, c'est un ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer ou Blanquer, je sais plus comment on dit, qui a attaqué publiquement et devant la représentation nationale le syndicat Sud-Éducation 93 pour son stage de formation syndicale au croisement des oppressions, où en est-on de l'antiracisme à l'école. Nous sommes, pour tout dire, stupéfaits de cette atteinte grave aux libertés syndicales, comme de la tournure que prend le débat public, virant à la stigmatisation avec beaucoup d'amalgame, d'approximations, voire de mensonges. Cette médiatisation a des conséquences pour les militantes et militants de ce syndicat, qui subissent depuis plusieurs jours menaces, injures, calomnie émanant de l'extrême droite. Il est inacceptable qu'un ministre légitime cette entreprise. Avant toute chose, il faut rappeler l'évidence. Oui, ce stage de formation syndicale est bien un stage antiraciste visant à combattre les discriminations raciales. Alors, on peut avoir des réserves sur la pertinence des méthodes employées par Sud-Éduc 93 dans ce stage, dont celle qui fait beaucoup couler beaucoup d'encre, les ateliers en non-mixité. Nous pouvons même, après tout, être en désaccord et en débattre. Mais il y a des impostures agitées par les détracteurs de Sud-Éduc 93 que nous ne pouvons accepter. Donc ce texte, je ne l'ai pas dit, donc il émane de soutien, c'est un texte qui est publié dans la presse, etc. Quand c'est nous, c'est les personnes qui l'ont écrit, hein. C'est pas nous en tant que CGA, nous on n'a vraiment aucun souci avec ces ateliers en non-mixité. Donc les deux ateliers non-mixtes sur 9 constituent une partie seulement du programme du stage, dont une grande part se déroule en plénière, donc c'est-à-dire mixte. Il ne s'agit donc pas absolument d'un stage entre guillemets interdit aux blancs, comme plusieurs médias ont cru pouvoir l'affirmer. Ces ateliers restent organisés dans un but, déconstruire des mécanismes d'oppression avec pour finalité de mieux comprendre le racisme pour mieux le combattre aujourd'hui. Comme l'a expérimenté le mouvement féministe avec intérêt, l'intention de la méthode de non-mixité est bien de chercher à faire avancer l'égalité, celle-là même qui s'inscrit au fronton de nos mairies sans se traduire dans les faits pour des millions de nos concitoyens et concitoyennes. Et c'est cela qui devrait être la préoccupation des pouvoirs publics. Mais c'est à l'opposé de cette préoccupation que Jean-Michel Blanquer, ou Blanquer, du coup je sais toujours pas comment on
Blanquer,
dit, Blanquer, c'est
Blanquer,
ça,
bien sûr.
A annoncé vouloir attaquer en diffamation le syndicat Sud-Éduc 93 pour l'usage des mots racisme d'État. Nous demandons au ministre, faudra-t-il demain mettre au pilon l'abondante littérature scientifique qui utilise cette expression et en analyse les déclinaisons, malheureusement bien concrètes. Faudra-t-il demain bannir des écrits et travaux de Michel Foucault, de Pierre Bourdieu ou d'autres les pages qui l'évoquent, ce racisme d'État, hein. Nous ne pouvons pas non plus accepter la répression antisyndicale et sa judiciarisation croissante impulsée par le sommet de l'État. Au moment où Jean-Michel Blanquer attaque le syndicat Sud-Éduc, Muriel Pénicaud met à pied une inspectrice du travail, également membre de Sud, et sanctionne deux militants de la CGT. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur un autre texte. Le cas présent nous amène bien, entre guillemets, au croisement des répressions. Surfant sur les paniques identitaires, le ministre de l'Éducation nationale s'aligne sur le calendrier dicté par l'extrême droite pour chercher à disqualifier le mouvement social et faire diversion face aux contestations. Nous exigeons que toutes les poursuites à l'égard de Sud-Éduc 93 soient immédiatement abandonnées. Voilà, parce que nous, on pose évidemment beaucoup la question. Là, je rebondis sur un texte qu'ont écrit les camarades de Montpellier. Mais donc, du coup, par rapport à cette attaque-là, que se passera-t-il donc, du coup, quand des groupes anarchistes, comme nous et comme d'autres, ou comme d'autres collectifs présents dans le mouvement social, chercheront à dénoncer les politiques racistes menées par l'État français depuis plusieurs années? Pourra-t-on encore coller des affiches portant la mention racisme d'État, tenir des débats publics à ce sujet? Rien n'est moins sûr au train où vont les choses si nous laissons faire. Cette attaque ne fait que renforcer les craintes qu'on peut avoir sur le durcissement de ce racisme d'État qui ne dit pas son nom, mais qui manœuvre et creuse tous les jours un peu plus l'assignation d'une partie de la population, la criminalisation, l'enfermement et l'expulsion d'une autre, sous prétexte qu'elles sont amalgamées à des catégories du type, entre guillemets, personnes issues de l'immigration maghrébine ou, entre guillemets, réfugiés, islamistes, potentiels terroristes. Revenir un petit peu sur qu'est-ce que le racisme. C'est une idéologie qui hiérarchise un système social qui produit des inégalités. Aujourd'hui, comme c'était déjà le cas il y a une vingtaine d'années, les contrôles aux faciès touchent majoritairement les gens de couleur. Les fonctionnaires de police qui commettent des actes racistes bénéficient pour la plupart d'entre eux de non-lieux. L'accès à un logement, à un travail ou à un stage est plus difficile pour certains, certaines, à cause de leur couleur de peau. Les politiques migratoires sur du 6 d'année en année pour rendre toujours plus impossible l'obtention de titres de séjour. Les préfectures ordonnent les assignations à résidence d'exilés dans des structures d'hébergement locaux qui s'apparentent à des centres de triage avant des renvois, notamment Dublinage, j'en parlais tout à l'heure, vers des pays européens qui pratiquent les mêmes politiques d'expulsion. Qu'on appelle ça racisme d'État ou racisme institutionnel ne change rien à la réalité sordide d'un système qui broie des vies humaines en s'appuyant sur les médias pour conforter une opinion publique poreuse aux stéréotypes racistes dans ses choix politiques. Nous combattrons le racisme d'État comme nous combattrons les attaques de nos libertés syndicales tant que nous pourrons. Et résultat de tout ça, eh bien ce matin, il me semble que c'est ce matin ou hier matin, mais il me semble que c'est plutôt ce matin, eh bien le local de Sud-Éduc et Éducation 93 a été vandalisé. Voilà, en début de matinée, alors qu'il est hébergé à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Des individus ont pénétré. Heureusement, il n'y avait personne, donc il n'y a pas de blessés physiques, mais du coup, ont saccagé le local de Sud-Éduc 93, pété les vitres, etc. Une des conséquences, du coup, de ministre qui défend les idées propagées par la fachosphère, notamment. Donc voilà, dans tout, on est tout. on donne, enfin, du coup, on est tout soutien avec le syndicat suisse du 93. On est content qu'il y ait autant de soutien, notamment au niveau syndical. Il n'y a pas de fléchissement de ce côté-là. Et on espère que toutes les poursuites seront abandonnées. Alors, bien sûr, on ne peut pas espérer que le ministre revienne sur ses paroles. Hein, voilà, ce serait se décrédibiliser. Mais voilà, en tout cas, il faut tout le temps être solidaire. Voilà, notamment de ce syndicat-là qui se bouge sur cette question de l'antiracisme au niveau de l'éducation. Donc voilà.
Donc, petite musique, deuxième étape de musique, donc. Ouais. Hein. On va écouter encore Juliette Gréco, toujours sur un texte de Rodagil, hein, Étienne Rodagil. Et là, cette fois, c'est « Si la bête a bu ».
Bonsoir, de retour du coup pour l'émission Idées Noires, des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et donc, comme après la première pause musicale, on va enchaîner avec un deuxième jet de lutte sociale pour ce soir.
Ouais, j'ai une deuxième page bien importante là. Avec Villefranche du Rouergue cette fois, et c'est une suite, et c'était au 23 novembre avec le 90e jour de lutte quand même pour les travailleurs et travailleuses du McDo du coin, hein, de Villefranche du Rouergue. C'était le 23 août dernier, hein, le départ de cette grève. Alors si elle exige l'instauration d'un dialogue social qui apparemment est resté coincé entre deux tranches de pain, il et elle exige de meilleures conditions de travail, toujours des salaires décents, vu qu'au 23, la grève persistait, c'est que tout a foiré, évidemment, dans les rapports avec la direction. Le syndicat CGT a été créé à cet effet, ce qui a déclenché une crise d'urticaire donc au patron, qui a fait feu, évidemment. Licenciement d'un salarié pour l'exemple, grève dans la foulée en août, tout ça. La hargne patronale avait déjà sévi en janvier 2017 à l'élection du syndicat, contestation auprès du tribunal de grande instance, hein, mais le pépère avait été débouté, donc il est vraiment colère. Une lutte gagnante, bah, il y en a hein, quand même de temps en temps, hein, qui concerne cette fois la branche spécifique sucrière de Saint-Louis-Sucre. Alors c'est dans la Somme, à Roy, dans la Somme. La direction a profité de la fin des quotas du 1er octobre 2017 et a accéléré donc les restructurations. Alors je ne vais pas me lancer dans une explication de ce que sont ces quotas en question de production, ah ouais. Enfin de tonnage de betteraves et tout, beans. Ce qui nous intéresse ici, ben c'est ce qu'on récupérait donc les salariés là, de Saint-Louis-Sucre. Donc c'était la flexibilité hein, qui était prévue par la direction, la précarité donc au programme également. C'est la dégradation des conditions de travail, la perte de salaire quand même hein, qui était d'une somme rondelette puisque c'était 1500 euros annuels. Le projet a été donc blackboulé par une lutte de la CGT, FO et de la CFDT, une pétition également de tout le personnel. Dans la foulée, il y a eu une manœuvre pas très jolie de la direction, puisque c'est une tentative de détourner les salariés, ou certains salariés, avec des primes allant de 1500 à 3000 euros. L'intersyndicale donc a réagi avec une menace de blocage. Alors ça a été payant puisque finalement au bout du compte, bah, c'est 1000 euros de primes pour tous et toutes en décembre, 10% de mieux pour l'intéressement, le maintien de l'organisation de travail antérieure, majoration des salaires pour le deuxième collège selon une modalité, un tantinet un peu complexe où je ne m'étalerai pas non plus, une belle baffe donc à une régression sociale naissante qui en avait déjà pris une par les producteurs de betteraves en question. Ils sont 120 producteurs de betteraves dans la région et 97 salariés à Roy chez Saint-Louis-Sucre. Que cette sucrerie donc a été créée quand même en 1831, est encore vivace, hein, voilà, pour exploiter ses travailleurs. Et elle appartient maintenant au groupe Südzucker, avec un chiffre d'affaires quand même, c'est intéressant de le donner, 5,7 milliards d'euros pour l'année 2010. On bouffe du sucre hein, quand même. Là, il y a des sous aussi. À Nantes, maintenant, c'était le 20 novembre avec une mobilisation solidaire pour les mineurs isolés. Enfin, les jeunes, hein, bien sûr, c'est pas les travailleurs hein, du fond des mines, hein, sont les mineurs isolés. À cette date, un local a été investi, qui sont en fait des locaux désaffectés d'une école des Beaux-Arts. Ça devrait donner des idées aux Lyonnais et Lyonnaises, ça quand même. Ouais. On en a une ici, là, qui est pas bien loin. Mmh. Donc, une école des Beaux-Arts, sitôt dit, sitôt fait, pas pour longtemps, toutefois, puisque la police est passée par là et a délogé les occupants et les occupantes sur ordre de la mairie. Rassemblement immédiat par la suite avec une centaine de personnes en protestation. Les promesses sont tombées comme d'habitude avec quelques logements pour 40 jeunes mineurs, alors que selon le collectif des associations solidaires, 230 mineurs vivent jour et nuit dans la rue. 415 sont comptabilisés en Loire-Atlantique, qui auraient été soi-disant pris en charge, même voire plus hein, quand même. Hein. Ils sont pas tous pris en charge en fait. Dans la même veine, si j'ose dire, je dirais plutôt la même des veines, c'est à Rennes avec une mobilisation, avec une manifestation quand même de 800 lycéens et lycéennes pour Georgi et Alex, donc qui sont deux frères, avec leur famille, sur le coup d'une expulsion manu militari. C'était le 22 novembre, alors efficace puisque les soutiens des familles apprenaient que le préfet suspendait les mesures d'expulsion pour l'année scolaire hein, seulement. Hein. Donc on parle d'une forte mobilisation quand même, parce qu'il y avait des profs, des instits, des élèves, des parents d'élèves. Alors cette famille géorgienne est en France quand même depuis 2011 et parfaitement intégrée selon le vocabulaire des bien-pensants. Et ils parlent français aussi, hein, voilà. À Grenoble maintenant, c'était le 22 novembre avec la General Electric ex-Alstom Hydro. C'est son plan de 345 licenciements sur 800 qui ne se digère pas ou mal du tout chez les salariés. Après des blocages en octobre, on a remis le couvert donc en novembre, c'était le 22, avec des manifs, des perturbations de réunions qui ont continué bon train, car la direction ne lâche pas le morceau sur cette affaire. Elle présentera son plan à son PSE, donc à la directe, le 22 décembre. En réponse, le site grenoblois a été bloqué le 20 novembre à 4h du matin et reconduit aussi par la suite par 250 salariés en assemblée générale avec occupation de nuit et un manque d'informations qui énerve évidemment l'intersyndicale. Cette fois, à la Réunion, donc on va passer les maires, avec une filiale d'ArcelorMittal, l'entreprise Profiledge, qui va licencier 40 postes sur 86 sur le site du port pour janvier 2018, selon le syndicat EFO, ces licenciements toucheraient une bonne partie des représentants des personnels, selon le syndicat. La production a été stoppée puisqu'on fait de la métallurgie de bâtiments. L'entreprise fait et génère donc du profit. Aucun cas donc de grève à appliquer ici. À Mayotte, cette fois avec une grève de 8 jours qui a été terminée et gagnante en partie. C'était au CHM, donc au centre hospitalier de Mayotte. Les personnels soignants et non soignants ont obtenu une prime exceptionnelle de suractivité à 800 euros. Pour toutes et tous, qui correspond donc à une indexation de 53%, si j'ai bien tout noté, de primes de vie chère. La lutte a abouti grâce à une solidarité sans faille avec devant les grévistes et la direction du CHM et de l'ARS du coin. Finalement, le compromis de sortie de crise ou protocole de fin de grève a été signé avec l'intersyndicale CGT, CFDT, FO et Sud. Et la CGC reste maintenant à traiter les conditions de travail. On sait qu'il y avait eu pas mal de mouvements de colère à Mayotte il y a quelques mois. Et puis à La Réunion, avec des nouvelles bonnes des grévistes de la société d'économie mixte Réunion Recyclage Environnement. Là aussi c'est une suite. Si vous vous rappelez un petit peu, à la mi-juillet, la grève était en place et suivie à 100%. Alors en jeu, c'était les salaires et diverses primes. 55 euros pour les salaires, prime exceptionnelle de 800 à 1200 euros, refus de la direction donc pendant un temps durant les NAO, donc 48 heures de grève et hop, dans la poche. Faut dire que pendant cette période tout était bloqué, hein. Plus de ramassage de déchets verts, encombrants et animaux morts, enfin bref, voilà, c'est un peu le bins. Alors ils ont cédé, la direction a cédé, grâce au syndicat. Alors ces deux syndicats, c'est l'UR 974 qui est une émanation de la CGT, enfin ils étaient CGT avant, ils sont sortis de la CGT, on ne sait pas pourquoi, c'est une désaffiliation en fait, et le syndicat SAAF-PTR, qui est un syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion. Je te laisse le micro, mon camarade.
Ok, donc quelques brèves de lutte aussi pour finir cette émission. On va aller faire un petit tour à Alger avec une grosse répression sur des syndicalistes. Ça s'est passé samedi dernier, donc des dizaines de syndicalistes ont été arrêtés dès le début de la matinée de samedi. Ces fonctionnaires de la fonction publique avaient répondu à l'appel de l'intersyndicale de la fonction publique qui avait décidé d'organiser un simple sit-in devant le siège du ministère de l'Éducation nationale pour protester contre leurs conditions de travail et l'érosion de leur pouvoir d'achat. Et bien, s'en est suivi une répression sauvage et féroce à l'encontre des militants et de tous les travailleurs, qui est une chose inadmissible et qui démontre de la panique dont est pris le pouvoir, qui excelle dans le génie du mal et de la répression. Ça, c'est une source, je vous dirais tout à l'heure, du coup, du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation et de la formation, le SATEF. Des enseignants, des médecins, des enseignants et des Algériens de tous les secteurs ont été tabassés et embarqués pour des destinations inconnues. Cela est inadmissible dans une Algérie libre et indépendante. Nous ne pouvons tolérer ces dépassements, comme nous tenons à dénoncer les soi-disant députés de la majorité qui ont vendu leur âme au diable contre de l'argent, ajoute le document. Et de ce côté, donc le RAJ, qui est une association de jeunes militants affiliés au FFS, a indiqué que, entre guillemets, que cette énième atteinte à la liberté d'expression, d'association, de réunion et de l'action syndicale démontre encore une fois que le pouvoir politique en place n'a pas la volonté d'engager un débat sérieux et de discuter avec les partenaires sociaux crédibles de la crise économique et sociale que traverse le pays. Donc voilà, c'était en Algérie. On va faire un petit retour en France. Tout à l'heure, je vous parlais de la ministère du ministère du travail, hein, du coup, qui sanctionne les syndicalistes. Et ben, je vous en donnais la raison. Et ben, en fait, le ministère du travail, donc, qui est pourtant garant du respect du droit syndical dans les entreprises de droit privé, et ben, il n'hésite pas, ce ministère, à prendre des sanctions disciplinaires contre des militants syndicaux, notamment CGT, de ses services en répression de l'exercice de leur activité syndicale. Donc, ça se passe en Île-de-France pour ce cas-là, mais aussi dans d'autres départements. En Île-de-France, c'était deux militants du coup syndicaux CGT qui sont vus infliger un blâme pour avoir soutenu l'action de travailleurs sans papier. Or, ces militants sont ceux-là même qui s'étaient portés aux côtés des travailleurs sans papier pour permettre que s'engage un dialogue constructif avec l'administration du travail. Donc, en fait, quand le patron, du coup, va sanctionner des syndicats qui font leur boulot. Depuis quelques mois, donc, où l'administration du travail cherche tous les prétextes pour sanctionner les militants, usage illicite des mails, insubordination, interpellation inappropriée des instances représentatives et de l'encadrement, affichage abusif, etc., etc. Mais là, la mesure est à son comble. Et le ministère, en sanctionnant des militants, cherche à porter atteinte au fondement même du droit syndical. De tout temps, la CGT s'est inscrite en défense des travailleurs sans papier et pour leur régularisation. D'un côté, le ministère discute avec les confédérations pour faire avancer les droits des travailleurs sans papier. Et de l'autre, il sanctionne. Le ministère du Travail, qui se retranche derrière l'état d'urgence pour mettre en cause la présence des travailleurs sans papier dans ses locaux, se fait-il le porte-parole du ministère de l'Intérieur? La mise en cause des militants est-elle le début d'une cabale généralisée contre les libertés syndicales, ce que les orientations de la loi travail laissent effectivement penser. Aujourd'hui, la répression s'aggrave puisqu'une procédure disciplinaire vient d'être engagée contre une syndicaliste pour des propos tenus dans la presse. Elle a été suspendue immédiatement de ses fonctions, fait sans précédent au ministère. La CGT mettra tout en œuvre pour défendre les libertés syndicales. Elle n'admettra pas que les militants soient poursuivis à titre personnel pour avoir combattu les orientations régressives du gouvernement ou pour avoir agi en solidarité des personnes les plus fragiles et les plus démunies. Elle n'admettra pas les décisions discriminatoires prises à l'encontre des militants. Elle demande donc le retrait des blâmes. Donc ça, c'était un communiqué d'un syndicat CGT. Et puis, chose promise, chose due. On vous a beaucoup parlé en début d'émission du coup de la manif de samedi. On en rajoute une petite couche. Hein. Samedi, 15h, au départ de la place des Terreaux, manifestation en solidarité avec toutes les migrantes et les migrants pour que ça trouve une solution pour toutes les personnes qui sont à la rue en ce moment. On rappelle qu'il y a environ 300 enfants scolarisés ou non qui dorment dehors. Certains réussissent à être hébergés soit par des particuliers, soit grâce aux mobilisations qu'il y a dans les écoles. Aussi pour les mineurs isolés, voilà, les jeunes majeurs qui sont pour certains et certaines hébergés à l'amphi C de la fac de Bron, et pour toutes les personnes qui sont dehors sur la planète Nelson Mandela vers la Part-Dieu, puis toutes les personnes qui sont dehors par cette température vraiment très froide. Donc une mobilisation en solidarité avec toutes ces personnes-là et pour la demande d'un logement et d'un toit pour tous et toutes. Donc ça, c'est la manif de samedi qui est à Lyon, et 15 jours plus tard, le samedi 16 décembre, il y aura à 14h un appel à aller à la gare SNCF de Menton-Gare Avant. Ce sera l'occasion de la journée internationale des migrantes et des migrants qui a lieu le lundi 18 décembre, mais donc la mobilisation sera bien le samedi 16 décembre, avec un mot d'ordre: liberté pour tous et toutes et solidarité avec les migrantes et migrants. Ouvrez les frontières. Je vous lis le petit texte du coup. En prélude à la journée internationale des migrants et migrantes, retrouvons-nous le samedi 16 décembre à Menton pour célébrer donc cette journée internationale des migrantes et migrants et donner de la visibilité à toutes les initiatives qui seront prises dans ce cadre. Parce que cette frontière est devenue un des symboles de l'inhumanité des politiques migratoires de l'État français, de l'Union européenne et du développement de l'État policier. Parce qu'aux morts dues à la fermeture des frontières s'ajoute la multiplication des mesures d'enfermement et d'expulsion, les milliers de migrantes et migrants à la rue, y compris des enfants et des jeunes isolés, le harcèlement policier et la chasse aux sans-papiers. Parce que le gouvernement français, au travers de l'inscription des mesures d'urgence dans le droit commun, contredit encore plus le droit d'asile, et que ce même gouvernement prépare une nouvelle loi durcissant encore sa politique migratoire dans un sens liberticide. Parce que cette région est devenue le symbole des solidarités qui existent sur tout le territoire avec les migrantes et migrants, et qu'elle est aussi devenue, après Calais, le symbole de la répression contre ce mouvement et les personnes solidaires. Et enfin, pour dire ça suffit, pour mettre fin à l'acharnement contre les migrantes et migrants, et aux discours et politiques racistes et sécuritaires qui gangrènent toute notre société. Et donc nous manifesterons pour l'accueil des migrantes et migrants, la liberté de circulation et de résidence, qui est quand même l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, la régularisation des sans-papiers, l'abrogation des accords de Dublin, la solidarité et l'égalité des droits pour toutes et tous, l'abrogation de tout, entre guillemets, délit de solidarité et l'abandon de toutes les poursuites contre les citoyens et citoyennes solidaires. C'est à l'appel du collectif Solidarité Migrants 06, donc des Alpes-Maritimes, le collectif aussi Solidarité de la Baie de la Roja, la coordination des sans-papiers 75, la coalition internationale des sans-papiers et migrants et migrantes, et il y aura sûrement plein de collectifs qui agissent au niveau local en solidarité avec les migrantes et migrantes qui seront signataires de cet appel, certainement aussi le collectif 69 qui appelle à la manif de ce samedi au Place des Terreaux, et notamment aussi je pense des orgues des partis politiques. Donc voilà, ça se passera le samedi 16 décembre à Menton. Commencez déjà à cocher cette case sur votre agenda, il sera très important d'y aller. On ne sait pas, il y aura peut-être des bus qui seront en partance de Lyon, puis si c'est pas des bus, ce seront des voitures. Voilà, on s'organisera pour descendre là-bas. A priori, se prépare aussi quelque chose à Briançon. Et aussi quelque chose du côté de la frontière italienne, voilà, donc en mode pour essayer de se rejoindre à la frontière, voilà, les militants, militantes, les migrants et migrantes des deux côtés de la frontière qui se rejoindront symboliquement. Donc voilà, il faut aussi que, comme la journée du 2 décembre, là, de samedi 2 décembre, ce samedi sur Lyon, il faut que ce soit une réussite, il faut que cette manif aussi nationale, voire internationale, soit une grosse réussite le samedi 16 décembre. On en reparlera du coup certainement la semaine prochaine et la semaine d'après.
En effet.
Donc voilà.
Et ben voilà, l'émission de ce soir est terminée. On vous dit pour une autre émission mercredi prochain.
Et surtout ce samedi dans la rue.
Ce samedi.
En solidarité avec les migrants.
Au Terreau, donc.
15h, voilà. Place des Terreaux.
Ok, allez. Et bonne semaine. Salut.